Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie ? Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Aujourd'hui, nous recevons Margot Beauchamp. Bonjour Margot.
Bonjour.
Donc vous êtes, on va commencer comme ça, travailleuse indépendante. Est-ce que vous pourriez esquisser le parcours qui vous a conduit à exercer le métier que vous exercez aujourd'hui, qu'on présente dans un premier temps comme travailleuse indépendante ? Après, on ira un peu plus loin. Voilà, le parcours depuis peut-être le master, master 2.
Alors, j'ai fait un master 2 en urbanisme, géographie et urbanisme, et aménagement du territoire. Puis, je me suis lancée dans une thèse de géographie. Sur les usages et non-usages du numérique dans les quartiers populaires. Thèse que je n'ai jamais terminée, mais sur laquelle j'ai passé de nombreuses années.
Pour laquelle vous avez eu une bourse ?
Oui.
C'est important de le dire pour plusieurs raisons, mais en tout cas parce que le thésard sans bourse, il est vraiment mal, je crois.
Là, non, c'était une thèse financée pendant 3 ans par le ministère de la Recherche, et ensuite pendant 2 ans des postes d'ATER, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, qui se combinaient avec des cours aux facultés d'abord de Paris 1, puis de Marseille. Et puis une dernière année de thèse. Donc en tout, ça fait quand même 6 ans passés sur cette thèse, à laquelle je n'ai jamais mis de point final. 5 ans financés et 6, une dernière année que j'ai passée en essayant de la terminer, tout en étant à Pôle emploi et en exerçant d'autres boulots à côté.
Qu'est-ce qui bloquait ? Enfin, je ne l'ai pas posé cette question, mais qu'est-ce qui faisait que vous n'arriviez pas à finir ?
Alors là, je dirais que la principale raison, c'était peut-être un décalage entre... Il y avait une sorte d'ambition théorique qui était trop grande un terrain de recherche qui ne me permettait pas de répondre à la question un peu trop théorique que je voulais poser. Et puis, à part ça, il y avait aussi un sentiment d'imposture qui m'a accompagnée tout au long de ces 6 ans et dès le début. Et puis voilà, la fin de cette thèse, ça a été... la décision de l'abandonner a été pour moi une sorte de libération. Et en fait, elle s'est un peu imposée à moi. J'ai flirté pendant 6 ans avec l'idée d'abandonner, depuis le début, avec l'idée d'abandonner cette thèse parce que je ne me sentais pas à ma place. Je me disais que je n'étais pas, j'avais pas ce sentiment de d'imposture. Quand j'ai pris la décision, c'était aussi mon corps qui me disait que je n'avais plus du tout l'once d'énergie nécessaire à la finir. Bien qu'il me restait vraiment très peu encore de travail à faire. J'avais quand même fait beaucoup de travail. Et voilà.
Oui, l'imposture. Il y a beaucoup de doctorants qui la sentent. Moi-même, j'avais commencé une thèse et je me sentais aussi imposteur. Mais c'est un exercice universitaire et quelquefois, on se trompe. On a l'impression qu'on veut réinventer
tout à fait.
La théorie de la relativité, des choses comme ça.
Bon. Voilà. Je pense que j'étais aussi trop jeune et je pense qu'il y avait un manque de maturité par rapport à ce que c'est qu'une thèse, qu'est-ce qu'on en attend. L'institution en attend, et moi j'avais gonflé cette attente,
oui, oui.
Ce qui fait que ça rendait difficile le fait de terminer, de faire quelque chose qui était, même si mon leitmotiv était de faire quelque chose qui tout juste passait, mais malgré ça, j'arrivais pas à rédiger ce mémoire qui serait juste passé, qui m'aurait permis de finir.
Vous auriez eu un diplôme
voilà.
Supplémentaire.
Et j'aurais rempli le contrat initial aussi. C'était
ouais, enfin, vous avez quand même fait le travail. Vous avez rien rendu ici, non, vous avez...
Alors, j'ai publié des articles et effectivement, le travail, je l'ai fait. Enfin, je veux dire, je pense pas avoir... Même si j'ai quand même porté cette culpabilité d'avoir été financée sans être allée au bout, si je réfléchis avec un peu plus de distance, je me dis que j'ai pas volé cet argent du financement. J'ai vraiment travaillé pendant 6 ans...
Oui, d'ailleurs, vous êtes devenue experte sur votre sujet puisque vous continuez à travailler dessus. Ouais. Donc, sur la... ce qu'on appelle un peu rapidement fracture numérique. Bon.
Oui, alors pour en venir à la suite de mon parcours, effectivement, au moment où j'ai abandonné cette thèse, j'ai envisagé toutes sortes de métiers différents. Et il se trouve que, a priori plutôt en dehors de la recherche, mais il se trouve que j'ai trouvé un boulot qui me paraissait tout à fait, où je me disais que je serais tout à fait à ma place, qui consistait à coordonner un réseau de chercheurs en sciences sociales. Chercheurs qui s'intéressaient justement aux transformations numériques de la société, avec tout un tas de disciplines qui s'entrecroisaient et qui réfléchissaient ensemble à ces différentes transformations que le numérique fait subir, mais il n'y a pas que en tout cas dans laquelle la société s'est engagée.
Oui, le laboratoire en question, donc vous êtes passé directement de la raie de la thèse à ce groupe de chercheurs, c'est un GIS, un groupement d'intérêt scientifique, qui s'appelle Marsouin, c'est Môle armoricain de recherche sur la société de l'information et les usages d'Internet.
Exactement, un groupement d'intérêt scientifique qui existe depuis 2002, et donc que j'ai rejoint en 2013 pour 5 ans. Donc j'ai occupé ce poste avec beaucoup de plaisir, et beaucoup de plaisir pendant 5 ans. Il s'agissait de contrats qui étaient à durée déterminée, des contrats d'un an renouvelables jusqu'à 5 fois. Donc, je suis allée au bout des possibilités de renouvellement. Il se trouve que au cours des 2 dernières années de mon contrat, j'ai commencé à entrevoir en fait à me rendre compte qu'il y avait une demande forte de la part de différents acteurs publics essentiellement. De demandes de formation, d'intervention sous diverses formes, des conférences, etc., autour de ces questions d'exclusion sociale liée au numérique. Comment le numérique provoque de nouvelles exclusions, nouvelles formes d'exclusion sociale.
C'était directement le prolongement de votre thèse.
Oui, et il se trouve d'ailleurs que, en fait, pendant ces 5 années au poste de coordinatrice du GIS,
vous auriez pu la finir là, la thèse à ce moment-là.
Oui, alors en fait, il se trouve que j'ai poursuivi en fait la recherche parce que il y a une partie de mon activité qui a consisté aussi à participer à un projet de recherche qui était dans la directe continuité de ma recherche en thèse qui portait sur comment le numérique peut être porteur de possibilités d'émancipation individuelle ou collective en particulier pour des personnes en marge de la société, dans quelle mesure, en même temps, le numérique était facteur d'exclusion sociale, et puis dans quel contexte, surtout comment la question était aussi de savoir comment les politiques publiques peuvent agir pour un numérique qui serait plus émancipateur et non pas pour un numérique qui serait excluant. Et donc, effectivement, c'était dans la continuité de ma thèse, et j'ai envisagé rapidement l'idée aussi de faire peut-être une thèse sur travaux, mais en fait, il me manquait la motivation nécessaire pour finir une thèse, parce que finalement, par exemple, la destination d'une thèse, c'est souvent pour rentrer à l'université en tant que maître de conférence, chose que non seulement, perspective qui était non seulement assez inatteignable dans le sens où le nombre de postes de maître de conférence est très réduit, mais en plus, perspective qui ne m'enchantait même pas tant que ça. Donc, assez rapidement, je me suis plutôt... orienté vers l'idée de tester une activité indépendante qui capitaliserait un peu sur toute cette réflexion et cette, on pourrait dire, une expertise accumulée au fil de plus de 10 ans. Enfin, donc à ce stade-là, on en était à peu près plus de 10 ans de recherche en sciences humaines sur ces questions d'inégalités sociales liées au numérique. Pour répondre effectivement à un besoin qui s'exprimait de la part d'organismes qui forment des travailleurs sociaux, de la part de collectivités territoriales, d'administrations publiques, qui se posent des questions sur les formes d'exclusion sociale que crée le numérique, notamment dans un contexte de forte dématérialisation des démarches administratives qui s'accompagne d'une fermeture des guichets, de la plupart des guichets des administrations, ce qui pose de réelles difficultés à bon nombre de citoyens. C'est ce qu'on appelle effectivement souvent la fracture numérique de manière un peu rapide. En tout cas, c'est une réalité forte. Et donc, il y a effectivement beaucoup de questionnements. Et je me suis aperçue que je pouvais effectivement répondre à un besoin de certains acteurs de se poser un moment, se former, prendre le temps de prendre un certain recul par rapport à ces questions et d'imaginer des solutions pour réduire ces difficultés.
D'accord, donc vous avez identifié un besoin, presque un marché, puisque vous, à un moment, vous avez obtenu un numéro, un SIRET, j'imagine, pour faire des fois... On va y arriver. Ouais. Donc vous avez décidé, en tout cas, de vous mettre à votre compte.
Voilà.
Comme travailleuse indépendante, mais ce n'est pas très précis. Avant de parler de Chrysalide, donc, parce que votre projet s'inscrit dans Chrysalide, qui est une association, c'est ça ?
Alors non, c'est une entreprise, une coopérative d'activité et d'emploi. Donc les coopératives d'activité et d'emploi, ce sont des entreprises qui ont pour mission, qui sont des entreprises à but non lucratif, sous forme de coopérative, dont la mission est d'héberger juridiquement et commercialement des travailleurs indépendants en offrant une alternative à la création d'une auto-entreprise. Et donc il s'agit pour ces CAE de les accompagner. Donc chaque travailleur indépendant est accompagné par un référent dans les coopératives d'activité et d'emploi qui les accompagne dans la définition de leur activité, de leur marché, pour reprendre ce mot-là, de voir sur quel peut être le modèle économique de leur activité et des accompagner aussi sur les aspects comptabilité, etc. Donc ça permet en fait d'alléger l'aspect administratif.
C'est un coût parce qu'ils prennent la moitié, ils prennent à la fois les charges normales que tout le monde paye, qu'ils reversent à l'État ou aux différentes caisses, et en même temps, ils prennent 10%, c'est ça, de frais de gestion.
Alors oui, effectivement, quand on est dans une coopérative d'activité d'emploi, on crée une facture qui est émise par la coopérative, coopérative qui va encaisser l'argent et qui va ensuite, après avoir prélevé 13% sur ce chiffre d'affaires, nous verser un salaire. Mais quand on verse un salaire, il faut aussi ajouter les cotisations sociales, cotisations salariales, que ce soit et cotisations patronales. Donc effectivement, tout ça revient à un salaire net qui est bien diminué une fois qu'on a enlevé chiffre d'affaires.
Il faut diviser la somme par deux. Ouais.
Oui, alors ça dépend effectivement de l'ensemble des charges, mais on n'est pas loin de c'est pas loin de ça effectivement. Et donc ce qui veut dire aussi que par rapport à l'auto-entreprise, il faut avoir des tarifs qui sont plus élevés que si on était auto-entrepreneur.
Donc là, on voit le besoin, moi je vois un marché. Et il y a vous qui vous installez, appuyé sur Chrysalide, cette coopérative, avec un appui logistique et même plus que ça. Donc comment maintenant, comment ça se passe au début, comment vous proposez votre offre, comment elle se précise, comment le chemin se fait en cheminant, comment ça se passe au début, le premier contrat par exemple?
Alors j'ai eu la chance de démarrer cette activité parce que j'avais déjà des demandes et je n'ai pas cherché des clients. En fait, les clients sont venus à moi parce que je pouvais aussi m'appuyer sur un réseau professionnel construit dans la durée depuis mes premières années de thèse et puis ensuite au sein de mon poste de coordinatrice. Et donc mon premier contrat, mon premier gros contrat, disons, il s'est fait avec la ville de Brest, avec qui j'avais déjà des contacts et qui m'a fait confiance pour travailler sur le bilan d'un dispositif qui s'appelle Internet pour tous, donc Internet en habitat social, et qui consistait à aller rencontrer tous les partenaires et parties prenantes, notamment les habitants de ce projet, pour en faire le bilan. Et donc c'était une première expérience vraiment liée là aussi à mon réseau professionnel.
Ça, c'était un travail d'enquête, c'est ça ?
Un travail d'enquête, donc qui doit effectivement, il s'agit les personnes avec qui j'étais en contact avec la ville de Brest avaient confiance dans mes capacités de mener une enquête, mais aussi reconnaissaient également ma connaissance du sujet particulièrement. Oui. Voilà. Donc c'était là, il y a la double, disons que le double intérêt de cette de choisir quelqu'un comme moi. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait cette enquête seule, mais avec une collègue sociologue qui travaille également dans le Chrysalide, à son compte, dans la même coopérative. Et c'est aussi l'intérêt d'être dans une coopérative, c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur des coopérateurs de la même, des travailleurs indépendants, entrepreneurs associés dans la même coopérative, et de pouvoir en fait proposer des projets communs à nos clients. Et donc là, effectivement, j'ai demandé parce que ça me semblait plus intéressant de travailler à deux et de réfléchir à deux sur cette enquête, de travailler avec une collègue qui s'appelle Hélène Trélu et sur lequel nous avons, avec laquelle nous avons effectivement mené le bilan de ce dispositif.
D'accord. Elle se nomme comment, elle, comme son métier, c'est...
Alors,
elle a un nom de métier, parce que vous, c'est travailleuse indépendante, bon.
Alors, je crois qu'elle définit son travail plus précis, en tant que travailleuse indépendante, plus tout simplement comme sociologue. Je pense qu'effectivement, les gens... Alors, il se trouve qu'elle a une thèse en sociologie, et je pense que les gens voient un peu plus à quoi peuvent servir des sociologues.
Vous êtes géographe.
Moi, je suis géographe de formation. On ne voit pas bien à quoi ça peut servir, surtout dans le domaine qui est le mien. Et donc effectivement, pour expliquer ce qu'est mon métier, je suis obligée de faire tout un tas de périphrases et d'expliquer. Ça prend un peu de temps parce que je dois expliquer. J'ai différentes activités en fait au sein de ce travail. Je suis comme je vous dis, je peux faire des études, des enquêtes. Je peux faire aussi. D'ailleurs, je fais non seulement pour des collectivités territoriales, mais je fais aussi du terrain dans le cadre de projets de recherche, donc avec des chercheurs.
Vous sous-traitez des parties de contrats de recherche ou des...
Des laboratoires de recherche et des chercheurs porteurs d'un projet de recherche peuvent me sous-traiter plus précisément du travail de terrain et puis d'analyse aussi. On peut effectivement, en fait, il s'agit de travailler ensemble, mais plutôt que de me recruter au sein du laboratoire, mais en fait, je facture une prestation d'enquête.
Donc vous faites des enquêtes, vous faites aussi des formations, hein.
Oui, je fais beaucoup de formations auprès de travailleurs sociaux sur ces questions d'exclusion numérique.
Beaucoup de gens qui font ce même métier s'appellent consultants. Le mot vous, vous déplaît ou...
Oui, alors je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ça me déplaît, mais effectivement j'aurais du mal à expliquer, mais... peut-être parce que je le comprends pas bien.
C'est plus clair. Je sais pas si c'est plus clair. Consultant, moi je me méfie aussi. Mais travailleuse intellectuelle. Enfin, vous dites même pas travailleuse intellectuelle. Vous dites travailleuse indépendante. Consultant, ça. Bon.
Ce serait peut-être plus clair, en effet, de me définir comme consultante, mais en même temps réducteur par rapport à. Il se trouve que je fais. Voilà, je vous ai dit de. Je suis aussi formatrice, en particulier auprès de travailleurs sociaux. Et puis je suis aussi enseignante de manière ponctuelle. J'enseigne les méthodologies de sciences sociales, notamment auprès de d'étudiants ingénieurs.
Vous travaillez à l'IMT, l'Institut... Je sais pas comment...
IMT Atlantique, qui est effectivement une école d'ingénieurs à Brest.
Ancien Bretagne, Télécom Bretagne, oui.
Donc effectivement, j'ai depuis plusieurs années, avec toute une équipe pédagogique de chercheurs en sciences sociales.
Et que vous connaissez bien, parce qu'ils étaient tous à Marsouin. Enfin, ils n'étaient pas tous, mais il y en avait notamment le directeur de Marsouin, bosse à l'IMT. Ouais.
Oui, et puis le Marsouin, ce sont aussi mes anciens collègues, en fait, à l'IMT Atlantique, puisque Marsouin est hébergé dans l'école IMT Atlantique.
D'accord.
Où il y a non seulement des enseignants-chercheurs dans les sciences de l'ingénieur, mais aussi des enseignants-chercheurs travaillant dans les sciences humaines et sociales. Donc c'est là qu'un Marsouin intervient.
Alors, si on faisait l'exercice difficile de faire une fiche de poste, fiche de poste, vous partez en vacances et vous imaginez que quelqu'un peut vous remplacer. Votre travail est tellement précis, vous l'avez découpé à votre façon, c'est peut-être pas sûr, mais ce serait quoi cette fiche de poste?
Alors, je pense qu'il faudrait différentes personnes pour les différentes facettes de mon poste. Je pense qu'il y a pour beaucoup de choses, je suis facilement remplaçable par d'autres personnes quand il s'agit de donner des cours en sciences sociales, effectivement. On peut trouver facilement des personnes qui ont les mêmes compétences quand il s'agit de quand il s'agit par exemple de former les travailleurs sociaux sur les questions alors qu'on appelle parfois d'inclusion numérique le nombre de personnes susceptibles de prendre en charge ces formations se réduit très fortement. J'en ai repéré 4-5 personnes qui pourraient potentiellement faire assez confiance pour mener les sessions de formation, pas forcément comme moi je les mène, mais en tout cas dans la même veine, avec le même esprit et disons le même discours global, avec les mêmes
expertise. Ouais, dans cette fiche de poste, il y aurait des tâches, enseigner, faire une enquête, c'est-à-dire des fonctions, on pourrait dire, et un objet aussi. Il y a quand même l'objet qui est le vôtre et que tout le monde ne maîtrise pas, ouais, qui est donc le rapport au numérique des populations qui en sont plutôt, a priori, éloignées.
Oui.
Et alors, le savoir-être, dans une fiche de poste, il y a tout le temps un savoir-être. C'est quoi le savoir-être pour faire ce type de travail ?
Le savoir-être, donc là aussi, il va dépendre des différentes missions, mais globalement, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la transmission, donc qui suppose la transmission, alors dans différents contextes plus ou moins liés à la pédagogie, que ce soit lors d'une conférence, lors d'un cours, lors d'une formation professionnelle. Et dans ce cas-là, ça va être le savoir. Enfin, comprendre à qui on a affaire, enfin, quel est le public en face de nous et comment s'adapter à son niveau de connaissance du sujet, de compétences. Et donc, il y a une forme de savoir, une forme d'empathie aussi, parce que je pense que c'est important dans la transmission et la pédagogie. Donc, savoir être à l'écoute du public et savoir entendre là où il bloque, là où il comprend pas et là où il en est et vers où on peut l'amener. Donc il y a cette dimension-là qui me semble importante dans le savoir-être. Et sur cette question de l'empathie et de l'écoute est peut-être encore plus importante quand il s'agit de mener des enquêtes par entretien. Je pense que là, c'est aussi...
il faut occuper le terrain. Enfin, il faut arriver sur un terrain. Les gens ne vous attendent pas.
Oui, faut savoir effectivement... Créer une relation de confiance qui va permettre à ces personnes de se livrer à vous pour vous apporter la connaissance de leur... Alors que ça peut être sur différents sujets, soit leurs conditions de vie, leurs conditions d'existence, quand il s'agit de comprendre à quelles difficultés ils sont confrontés dans la démarche de leur vie quotidienne dans une société très fortement numérisée et où finalement le numérique ferme certaines portes. Mais ça peut être aussi comprendre, je fais notamment en ce moment des entretiens auprès des communes bretonnes, auprès d'élus ou d'agents techniques. Donc là, il s'agit de comprendre l'organisation de leur structure, les contraintes auxquelles ils sont confrontés, et puis leurs aspirations, tout un tas de...
D'accord. Alors si on essaie de définir ça en métier, moi je vois sociologue... Quel est le cœur de ce métier que vous faites, que vous inventez en même temps, puisque ce n'est pas un métier qu'on va trouver à la NPE, ni Pôle emploi aujourd'hui.
Alors on pourrait dire chercheur indépendant, même si j'ai une difficulté à me définir comme chercheuse n'ayant jamais terminé ma thèse, mais néanmoins c'est bien ce que je fais depuis 2005, c'est que je fais de la recherche en sciences sociales, pas tout le temps, mais... une bonne partie de mon temps, donc effectivement, même si j'ai pas la casquette, la légitimité de la docteur...
Vous en avez le savoir-faire.
C'est ça.
D'ailleurs, on pourrait parler du savoir-faire. Quel est le cœur de ce savoir-faire
Je dirais le cœur du savoir-faire du chercheur en sciences sociales, ce serait de savoir qu'est-ce qu'on est en droit de produire comme savoir qui serait... méthodologiquement établi à partir des données qu'on a, c'est-à-dire quelles sont les limites de ces données, quand je parle de données, ça peut être des retranscriptions d'entretien, ça peut être des observations qu'on a pu faire, ça peut être aussi des données quantitatives quand on travaille sur des bases de données. En gros, quel est leur statut, qu'est-ce qu'elles disent et qu'est-ce qu'elles ne disent pas, et donc ne pas leur faire dire des choses qu'elles ne disent pas, et donc...
C'est savoir questionner un terrain.
Savoir aussi, effectivement, avoir conscience de tous les biais que comporte la manière dont on a collecté ces données-là.
Oui.
tous leurs manquements, leurs limites, et donc avoir aussi conscience des limites du savoir qu'on va pouvoir produire à partir de ces données.
Tout un échafaudage épistémologique, méthodologique,
oui.
Qui fait que quand on dit quelque chose, c'est très construit, quoi.
Et c'est sous réserve de tout ce qu'on n'a pas pu observer,
en plus,
dire,
etc. Oui, oui, vous mettez facilement des réserves à vos affirmations, ce que font moins les consultants en général. Enfin, ça n'engage que moi. Hein. Sur le plaisir du métier, parce que ça fait partie de l'émission, c'est même moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à trouver du plaisir au boulot. Quel est, à la fois, vous, il y a un métier et puis il y a un statut, c'est les deux ensemble, hein, parce que vous avez créé ce statut. Pourquoi exercer ? Parce que vous pourriez, quand même, vous n'avez pas fini la thèse, mais enfin, vous avez bossé pour des labos, vous avez mené votre travail au bout, etc. Pourquoi choisir cette forme très particulière où vous mettez à votre compte, hein, en portage avec une coopérative et oui, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du statut, mais aussi pourquoi vous êtes spécialisé donc sur la fracture numérique, c'est votre thèse, mais ça vous pourriez élargir parce que vous avez appris les méthodes des sciences sociales, vous pourriez élargir. Donc voilà, allons-y sur l'intérêt de tout ça.
Oui. Alors déjà pour commencer, peut-être je mettrai une nuance. J'ai pas créé le statut parce que le statut de travailleur indépendant au sein d'une coopérative et d'activité, c'est un statut qui a été créé il y a maintenant, je sais pas exactement, je dirais au cours des années 90, je pense. Les premières coopératives d'activité, oui. D'emploi. Néanmoins, effectivement, j'ai créé le métier que j'occupe aujourd'hui, que je n'arrive pas à définir. Effectivement, c'est moi qui l'ai créé avec cette combinaison d'activités diverses qui combinent effectivement à la fois une expertise sur la fracture numérique, pour réemployer ce mot que je n'adore pas, mais qui a le mérite de la simplicité, des cours en sciences sociales, donc tout ce que j'ai énuméré auparavant. Donc cette combinaison, effectivement, c'est cette combinaison que j'ai créée qui définit plus ou moins un métier difficilement résumable en quelques mots. Je dirais juste aussi, je préciserais qu'il ne s'agit pas de portage salarial, hein, quand on est dans une CAE, même si effectivement ça y ressemble. Mais il y a cette dimension coopérative et d'engagement dans la durée avec la coopérative.
Oui,
avec une...
vous êtes aussi partie prenante de cette coopérative.
Voilà,
c'est ça. Et plus en plus.
Voilà, c'est ça, effectivement. Quand on intègre une coopérative d'activité et d'emploi, on devient en fait partie prenante et c'est nous qui construisons ensemble, collectivement, l'avenir de cette coopérative. En tout cas, à partir de 3 ans dans cette coopérative, on devient associé. Et il y a un fonctionnement démocratique qui fait qu'on décide collectivement de tout un tas de règles d'organisation de cette coopérative. Donc on n'est pas dans du portage qui serait plus, voilà, qui est une vision un peu beaucoup plus, disons, utilitariste de ce type d'entreprise.
Qui instrumentaliserait une structure, vous la payez et puis vous en servez. Quoi.
Voilà,
c'est pas ça, non.
C'est pas
ça en partie, mais c'est pas
voilà,
ça.
Ouais. C'est ça, oui, tout à fait. Et puis, pour répondre à l'autre question que vous me disiez, est-ce que je pourrais effectivement élargir à d'autres sujets les compétences en sciences sociales que j'ai développées ? Oui, et d'ailleurs, c'est mon souhait. J'aimerais effectivement ne pas me limiter aux questions... de transformation numérique de la société, même si elles sont tellement larges que je peux y consacrer ma vie.
Oui, en plus, le numérique vous nous envoie vers
le numérique, effectivement, est déjà très... quand on parle du numérique, on parle effectivement de toute la vie, donc c'est déjà assez large en soi. Et effectivement, même si j'aimerais parfois faire d'autres choses, il se trouve que ça occupe déjà assez bien mon temps, parce que les besoins, finalement, j'ai... Alors, pour peut-être préciser quelque chose qu'on a évoqué en début d'entretien, je disais tout à l'heure que j'ai eu la chance de ne pas aller chercher les clients au départ. Et bien, c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis maintenant 4 ans que j'exerce comme travailleuse indépendante, finalement, les demandes sont venues à moi au fil de l'eau et je n'ai pas eu à chercher des clients. D'ailleurs, je n'ai pas créé de site web.
C'est impressionnant. Je suis très surpris de ça. Alors, si on parle de la dimension économique de ce travail, c'est important, surtout que vous êtes à votre compte. Vous gagnez moins qu'un professeur à l'université ?
Beaucoup moins, oui.
Et beaucoup moins. Donc c'est intéressant de voir. Encore une fois, pourquoi ne pas être. Enfin, non, vous ne pouvez pas, vous faut une thèse, bon, ok. Mais vous pourriez bosser dans un cabinet de consultant, vous pourriez bosser. Il y a quand même pas mal de structures qui ont besoin, les collectivités par exemple, de gens comme vous qui savent définir un terrain, l'interroger, en sortir des données, se solidifier des énoncés, etc. etc.
Alors, je ne sais pas. Alors, déjà, je ne sais pas si à Brest, ce serait si facile de trouver. Voilà, des métiers qui ressembleraient à celui-ci. Et même ailleurs, c'est-à-dire, bon, déjà, premier élément de réponse, c'est que, effectivement, dans ce choix, il y a aussi le choix de créer mon activité là où j'ai envie de vivre. Et mon choix, effectivement, après 5 ans en poste à Marsouin, après avoir quitté Paris pour Brest et occuper ce poste, bah, j'avais pas envie de quitter Brest, j'avais envie de rester habiter à Brest. Et donc, plutôt que de chercher un travail salarié qui n'aurait peut-être pas correspondu à ce que j'avais envie de faire, justement, dans cette liberté de choisir les différents. D'avoir une palette en fait, d'activités assez différentes, comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis pas sûre que j'aurais trouvé. Ce type d'emploi à Brest. Et puis, j'avais aussi envie d'une certaine liberté d'occupation de mon temps, ce que me permet ce travail-là. C'est-à-dire que, alors, j'ai du mal à dire combien de temps je travaille par semaine, lycée. Voilà, il y a des semaines où je travaille beaucoup, des semaines où je travaille moins.
Mais vous pouvez articuler avec d'autres choses. Vous avez un enfant qui a 2 ans, c'est ça ?
Oui, un an et demi.
Un an et demi pour. Bon, ben, quand il a besoin de vous, même si vous le mettez à la crèche.
Oui.
Vous pouvez être disponible.
J'ai plus de disponibilité pour lui. Je peux effectivement, dans une certaine mesure, définir mon emploi du temps en fonction d'autres,
en même temps, vous voulez pas être femme au foyer.
Aspects importants de ma vie. Ah non.
C'est important de le dire quand même.
Oui.
Parce que là, vous jouez sur un équilibre qui est très compliqué, qui est très subtil.
Oui, parce que la difficulté quand on est travailleuse indépendante et qu'on a justement une certaine liberté dans son emploi du temps, c'est qu'on est justement plus facilement sollicité, plus facilement dévoué au travail familial. Parce qu'on a justement plus de flexibilité. Donc c'est un équilibre aussi difficile à trouver pour ça. Et même vis-à-vis des amis, parfois, se dire de faire comprendre aux amis que effectivement, on n'a pas de réunion, on n'a rien il y a rien qui nous oblige à être à notre bureau ce jour-là, mais en même temps, on a quand même beaucoup de travail et qu'il faut travailler.
C'est beaucoup plus compliqué de créer soi-même son emploi du temps, je crois. C'est... Faut de la discipline, oui.
C'est ça, faut de la discipline.
On voit bien l'intérêt que vous prenez à ce boulot et pourquoi vous le faites les raisons pour lesquelles vous le faites. Et si on cherche du côté des choses moins faciles, il y a des tâches qui sont difficiles à faire mais qui vous grandissent forcément. Une enquête compliquée, le terrain compliqué, mais vous en sortez quelque chose reconnu, valable, intéressant, etc. Est-ce qu'il y a des aspects dans ce boulot qui sont moins drôles, moins... qui pourraient presque être aliénants
Alors, dans l'ensemble, j'ai quand même, si je compare à beaucoup d'autres boulots exercés par plein de gens dans cette société, j'ai effectivement des tâches que je trouve plus ingrates, mais... par exemple, tout ce qui est administratif, qui, même si c'est très fortement pris en charge et accompagné par la coopérative, il reste toujours des moments où il faut facturer, il faut faire la comptabilité, un peu de compatibilité, etc. Il y a ça. Et puis, il y a, si je reprends l'exemple des enquêtes, il y a une dimension extra... Bon, là, c'est valable là, pour tout, je pense, pour tous les chercheurs. Il y a l'aspect satisfaisant, exaltant même d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens, qui est toujours qui est très porteur, qui effectivement dans la discussion, l'échange, c'est toujours quelque chose qui est porteur, même si parfois on peut avoir un peu peur d'aller voir certaines de se lancer, mais une fois qu'on est là-bas, enfin qu'on est au contact des gens, il se passe toujours des choses qui nous grandissent d'une certaine manière. Et puis après, de retour à la maison, au bureau, il y a la maison au bureau, parce que pour moi, ça se confond la plupart du temps. Je travaille effectivement quand je ne suis pas sur le terrain, à la maison. Il y a l'aspect plus, un peu plus pénible de l'enquête, qui va consister à faire des synthèses, voire des retranscriptions d'entretien, et qui peut être un travail
fastidieux,
pas très fastidieux. Et pourtant, c'est aussi là-dedans, quand petit à petit, à force de mettre en lien différents entretiens, etc., va émerger tout d'un coup quelque chose qui va faire sens, qui va donner une certaine logique, et qui là aussi va être porteur de beaucoup de... parfois même de bonheur, c'est des bonheurs fugaces, mais quand tout d'un coup, effectivement, ça peut être un bonheur fugace, quand tout d'un coup, on a quelque chose qui fait système au sein d'un ensemble d'entretiens, etc., qui va faire sens, et qui va... Alors, faire système, c'est peut-être un peu
non, mais en tout cas, il y a quelque chose qui émerge,
des logiques sous forme qui émergent, de sens et de logique. Coup, on voit qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre comme savoir, justement, produire comme savoir, et transmettre, et dire, voilà, je vais pouvoir... dire que grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui se sont livrées à moi, je peux dire ceci, cela.
Oui, solidement. Voilà. Non, mais c'est pas rien. C'est le travail, typiquement le travail du chercheur, quand ça marche. Ouais. Et si on prend... vous faites ça maintenant, vous êtes à votre compte depuis...
4 ans, à
4
peu
ans.
Près.
Alors, que s'est-il passé en 4 ans quel est... Moi, je pense le travail comme un milieu. C'est-à-dire un milieu, ça, on agit dessus, on est en train de bousiller notre climat, mais le climat agit sur nous aussi. C'est peut-être mal. Donc le travail, c'est pareil. Le travail, on agit sur nous et on agit dessus. Et ça peut être bénéfique ou pas bénéfique. Donc si on pense le travail en termes de milieu, de quelle manière ça vous transforme, ça vous fabrique ?
Je pense que ce travail de transformation par le travail, c'est pas facile. Je dirais pas que les 4 dernières années ont été les plus importantes. Je pense que les années les plus importantes de cette transformation, elles ont commencé pendant la thèse et même avant, dès le master, les études. Et c'est vraiment les années de thèse, puis aussi
c'est très
les années,
la thèse, ouais.
Voilà, puis les années aussi, les 5 années. Poste de coordinatrice, mais peut-être plus encore les 6 années de thèse, je pense qu'effectivement, là, c'est une profonde transformation. C'est un moment où on lit beaucoup, on rencontre beaucoup de gens qui travaillent sur plein de sujets très différents, on se crée un réseau d'amis aussi, ce qui va nous accompagner. Alors, on en a aussi avant, mais on en aura plus tard. Mais tous ces gens, dans la vingtaine, disons, dans l'année de la vingtaine, c'est très constitutif. Le travail, bien sûr, aujourd'hui, continue à me transformer.
Ce qui a changé quand même, c'est que maintenant, vous êtes à votre compte, avec parfois des difficultés, parfois ça marche bien, etc. Bon. Et donc, il y a des nouvelles tâches, et puis il y a une nouvelle façon d'envisager même la recherche, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui va demander de faire ceci. Donc, c'est vous qui allez même chercher des sujets ou répondre à des demandes. Ça doit transformer un peu le...
Oui, mais je dirais qu'en fait, finalement, ce qui me transforme, et comme vous disiez, c'est presque justement le monde, la société qui change, qui va aussi avoir un impact sur mon travail, parce que mon travail est lié au changement de la société. Donc finalement, c'est tout ça qui va me transformer, le travail, parce que...
Vous êtes plus en contact, d'une certaine manière.
Oui, voilà, les nouveaux enjeux que pose la société, notamment les enjeux environnementaux, l'évolution aussi du numérique, c'est-à-dire comme le numérique, quand j'ai commencé à travailler il y a dans les années 2005, il n'y avait pas de réseaux sociaux, les questions étaient très différentes d'aujourd'hui, donc toutes ces évolutions du numérique et tous les enjeux qui ont tellement changé, les enjeux sociaux ont tellement changé et ils continuent d'évoluer très rapidement, tout ça contribue à façonner finalement le travail que je suis amenée à conduire, les questions que je suis amenée à me poser, moi-même, parce qu'effectivement les questions ne sont pas les mêmes et que tout ça, voilà, je pense qu'effectivement, plus on passe du temps sur des choses, plus ça nous transforme de la même manière que d'un métier manuel. Oui. Bah, voilà.
Moi, ce que j'entends, c'est que ça vous êtes en prise directe sur beaucoup de choses. Oui. Vous le seriez moins dans un laboratoire, peut-être, parce que dans un laboratoire, on creuse un...
Je sais pas, ça dépend.
Ça dépend des laboratoires, ça dépend des recherches.
Oui, ça dépend. Je pense qu'il y a beaucoup de...
Mais dans la mesure où vous êtes seul à décider de ce que vous... Enfin, il y a aussi des opportunités. Mais...
Oui, il y a beaucoup. C'est beaucoup de ce que je fais, c'est vraiment effectivement lié à des opportunités. Enfin, des opportunités parce qu'il y a des demandes. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, je suis en prise avec ces questions que le numérique pose à la société. Donc. Voilà, je ne sais pas si je suis plus en prise que... Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait en prise avec...
Oui.
Mais effectivement, en tout cas, la place que j'occupe me permet d'être en prise avec beaucoup de sujets de société.
Alors si vous voyez une jeune fille, un jeune homme venir vers vous en disant « c'est extraordinaire ce que tu fais », je voudrais faire la même chose. Bon, la personne, elle a une thèse ou pas, mais enfin, vaut mieux qu'elle ait une thèse ou alors qu'elle ait en tout cas le niveau. Quel conseil vous pourriez lui donner et si vous vouliez vous faire vendeuse un peu comment vous voudriez le vendre? Alors le vendre, c'est un mot toujours compliqué, mais en tout cas tracer les mérites, les intérêts, la joie de faire ça.
Alors ça dépend vraiment de qui j'ai en face de moi, parce que s'il s'agit de s'il s'agit de quelqu'un qui est en thèse, et ça m'arrive d'ailleurs, des amis qui sont, alors pas forcément en thèse, mais qui peuvent avoir terminé leur thèse, et qui se disent « je me vois pas dans la recherche, je me vois pas dans l'université, c'est pas moi ». Moi, j'ai vraiment tendance à leur dire « mais tu sais faire tellement de choses, tu peux faire, t'as de l'or dans les mains et dans le cerveau aie confiance en toi. » Et alors effectivement il y a la question,
la confiance est très important là,
la question du réseau professionnel aussi. Est aussi important, et donc
vous l'avez fabriqué par la thèse,
je l'ai fabriqué
par
la... sans même y réfléchir, effectivement et c'est aussi parce que mon sujet de recherche était là encore une fois très en prise avec des questions de société actuelles, et donc j'ai eu cette chance là aussi peut-être de ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les sujets.
Il y a des travailleurs intellectuels qui travaillent sur des choses qui ne connectent pas forcément avec ce qui se passe aujourd'hui. Ouais.
En tout cas, j'aurais effectivement, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui n'ont pas eu de vision, enfin qui ont vraiment tout misé sur l'université et la recherche. Pour eux, c'est parfois très difficile d'envisager autre chose, et effectivement de se faire confiance sur la possibilité d'avoir d'autres missions, d'autres places dans la société, en fait. Et après, de manière générale, pour quelqu'un qui serait travailleur, qui aurait envie de travailler de manière indépendante, j'aurais le conseil que j'ai reçu moi-même quand j'ai envisagé ça, c'est effectivement de tester son activité au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi, parce que ça permet vraiment justement de tester sans beaucoup de risques. Alors, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que effectivement, on cotise en tant qu'entrepreneur au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi. On cotise au chômage, on cotise à la retraite, on cotise à toutes les formes de protection sociale. Et on a une entrée qui est progressive dans l'activité indépendante avec un accompagnement. Et on a vraiment, plus encadré, plus protégé du point de vue de la sécurité sociale que si on était auto-entrepreneur. Donc j'aurais aussi...
on va conclure là-dessus peut-être en rappelant donc la coopérative d'emploi et d'activité, c'est Chrysalide.
Oui, c'est Chrysalide dans le Finistère. Chaque département dispose d'une coopérative d'activité et d'emploi. Dans le Finistère, elle s'appelle Chrysalide.
Est-ce qu'on donne vos coordonnées si là tout d'un coup il y a un maire qui nous écoute, qui a une fracture terrible dans sa commune où il y a tous les pauvres d'un côté et les riches de l'autre?
Oui, le moyen le plus facile de me contacter, c'est de taper mon nom, Margot Beauchamp, sur le site de on trouve sur le site de Chrysalide, il y a une possibilité de me contacter par un formulaire.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Margot Beauchamp, donc travailleuse indépendante, c'est votre statut. Peut-être consultante un jour.
Merci et bonne. Merci pour l'invitation.
C'était un plaisir. Allez, merci, au revoir.
Au revoir.
prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.